Radio Okapi.
Le journal, c'est tout de suite avec Gisèle Cage.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Des réactions sur les discours du chef de l'État devant le Congrès. L'opposition politique estime que ces discours est plein de promesses et ne rassure pas. Les syndicalistes du secteur de l'éducation redoutent quant à eux que les efforts du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base soient sapés si les intervenants aux épreuves certificatives ne sont pas payés. Des affrontements entre deux groupes armés dans la région de Salamabila, territoire des Kabambaré. Il y a des morts depuis hier et plusieurs dégâts matériels. Des populations ont fui la région pour se mettre à l'abri selon un député provincial. Amnesty International, cette ONG de droits de l'homme, demande au président Félix Tshisekedi de suspendre tous les officiers impliqués dans les massacres des adeptes du mouvement politico-religieux appelé Wazalendo le 30 août 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu, aux Nations Unies, d'ouvrir une enquête sur le rôle joué par la MONUSCO dans les événements ayant conduit au massacre. Jean-Maubert Senga, chercheur RDC à Amnesty International et notre invité, c'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ses réactions après le discours du chef de l'État à la nation. L'opposition politique trouve rien de nouveau dans les discours du chef de l'État prononcé donc hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Prince Epengé, porte-parole de la plateforme politique Lamuka de Fayulu, estime que ses discours est plein de promesses et ne rassure pas, car visiblement a-t-il affirmé, le fait démontre sur le terrain que l'espérance de la vie de peuple congolais croupissant dans le chômage ne fait que régresser. Les propos de Prince Epengé sont recueillis ici par Askin Zibia Tayoro.
Nous donnons raison au peuple congolais qui n'a pas trouvé important de suivre un discours à la soviétique plein de promesses de M. Félix Tshisekedi. C'est la même récitation. Alors que l'espérance de la vie régresse au Congo, alors que la majorité de la population en âge de travailler est au chômage, M. Félix Tshisekedi voit un Congo prospère. Évidemment, dans son discours, il est en Allemagne d'Afrique, mais dans les faits, nous ne sommes pas plus qu'en Mbandaka. Félix Tshisekedi qualifie le Congo d'un immense chantier. Oui, le Congo est un immense chantier, mais un chantier où le maître d'œuvre et la main d'œuvre détournent les briques, pillent tous les matériels censés construire le Congo. Dans ces conditions, le Congo sera l'enfer dans les jours à venir.
Au chapitre toujours de réaction, le syndicat des administratifs et enseignants du Congo a salué ce jeudi l'engagement du chef de l'État pour suivre le programme de la gratuité de l'enseignement de base avec la possibilité de l'élargir au niveau secondaire. La présidente de cette structure, Angèle Payenzo, a exprimé sa satisfaction dans un entretien accordé à Radio Okapi. Elle a néanmoins redouté que les efforts du président de la République soient annihilés à la suite du non-paiement des intervenants aux évaluations certificatives des éditions 2022, 2023 et 2024. Angèle Payenzo le dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous saluons vraiment l'engagement du chef de l'État par rapport à la pérennisation de la gratuité au niveau de l'enseignement. Mais nous constatons qu'il y a du fonctionnement au niveau de l'organisation des évaluations certificatives. Depuis 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les intervenants à l'organisation de l'examen d'État et aux évaluations certificatives, même à la correction, donc ne sont pas payés. L'évaluation certificative, c'est le socle même de l'éducation, parce que à la fin, on évalue. Et ceux qui travaillent pour cette organisation des évaluations ne sont pas payés. Comment l'organisation certificative des autres années soit organisée à bon et due forme? Donc, nous demandons à ce que le président de la République, le chef de l'État, puisse s'imprégner encore, comme il l'a dit au niveau de ces congrès, pour que ces intervenants soient bien payés pour ne pas perturber les évaluations qui viennent.
Autre nouvelle à présent, Amnesty International reproche à la MONUSCO d'avoir joué un rôle dans les événements ayant conduit au massacre au mois d'août à Goma contre les manifestants Wazalendo, à ne pas confondre avec les combattants Wazalendo qui se battent contre le rebelle du M23. Selon Jean-Maubert Senga, chercheur RDC Amnesty International, la démonte faite par la chef de la MONUSCO à Goma à l'ex-gouverneur Constant Ndima d'interdire la manifestation est allée au-delà des préjorative de la MONUSCO en RDC. On écoute Jean-Maubert Singa, joint par Jeff Ngoyo.
La chef de bureau de la MONUSCO à l'époque à Goma avait écrit au gouverneur de l'époque Constant Ndima, lui demandant d'interdire purement et simplement la manifestation, jugeant qu'elle serait violente, qu'il y avait un risque d'attaque contre les installations et les personnels de la MONUSCO. Nous n'avons pas trouvé de preuves et en analysant les détails des déclarations, des écrits et des actes passés de ce groupe politico-religieux, la moindre preuve qu'elle préparait une manifestation violente contre la MONUSCO. Donc nous considérons que la demande de la MONUSCO envers les autorités congolaises d'interdire la manifestation, surtout en connaissant la manière dont malheureusement les forces de défense et de sécurité congolaises se comportent souvent, nous considérons que cette demande est allée beaucoup trop loin, au-delà de ce que la MONUSCO pourrait se permettre et en violation du droit à la liberté de manifestation et d'association que les Nations Unies sont censées promouvoir et défendre.
Rappelons que ces événements malheureux sont survenus le 30 août 2023 à Goma. En réaction, la MONUSCO réaffirme son mandat à protéger les civils. S'agissant de ces événements survenus à Goma, la porte-parole de la MONUSCO note que la mission a travaillé en étroite collaboration avec les autorités afin d'identifier les coupables. Kadi Ndeye au micro de Martin Sebujangwe.
En août 2023, la MONUSCO avait reçu des informations indiquant que des manifestations violentes étaient prévues contre son personnel et ses installations. Un risque significatif pour les civils congolais et les casques bleus dans la province du Nord Kivu. En tirant les leçons de situations similaires précédentes, notamment les manifestations violentes de juillet 2022, la MONUSCO avait contacté les autorités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo afin de souligner ses préoccupations relative aux menaces pesant sur les civils et les casques bleus, mais aussi pour mettre l'accent sur la nécessité pour les autorités congolaises de respecter les droits de l'homme et d'éviter des restrictions à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. En ce qui concerne les événements du 30 août 2023, la MONUSCO a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement afin d'identifier et tenir responsables les individus impliqués dans les graves incidents qui ont eu lieu. Nous nous engageons à collaborer de manière constructive avec les autorités de la RDC pour remplir notre mandat, notamment en prévenant et en protégeant les civils contre les menaces immédiates de violence physique, en particulier les enfants et les femmes, en surveillant, rapportant et enquêtant sur les violations des droits de l'homme, en soutenant le système judiciaire de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'impunité et en assurant la protection du personnel des Nations Unies.
Situation sécuritaire préoccupante dans les territoires de Kabambaré. Ce matin encore, il y a eu des affrontements qui occasionnent donc les déplacements massifs des populations vers le village environnant. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, le gouvernement provincial s'y met pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de Maniema. Déjà, le mercredi, le bilan provisoire était de 5 morts et plusieurs blessés avec des dégâts matériels graves, nous a confirmé le député provincial de Kabambaré et l'autorité provinciale. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawamo Selemani Taylor, au micro de Florence Kizalunga.
Au niveau de Salamabila, il y a une situation inhabituelle. Depuis hier, il y a eu des affrontements entre un groupe soutenu par Yakutumba, qui est du Sud Kivu, et un autre groupe qui est installé au niveau du secteur de Babouyou. Alors, les bilans actuels, on nous parle qu'il y a des morts. Il y a ceux qui nous disent qu'il y a 4, il y a 5, mais nous attendons de plus amples précisions parce que le gouvernement provincial est en train déjà de se mettre pour pouvoir chercher des mécanismes pour protéger la population et leurs biens. Ce qui est très décevant et que même aujourd'hui, ce matin, on nous apprend que les affrontements continuent. Donc, nous ne serons pas surpris d'apprendre que le bilan en perte en vies humaines a augmenté. Au stade actuel, le gouvernement provincial est en train de se mettre avec ses moyens de bord pour qu'on puisse d'abord déployer une équipe de façon à les sécuriser la population. population. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'en parler au chef d'état-major général qui était de passage ici. Il nous a fait des assurances qu'on va nous équiper, qu'on va envoyer des hommes pour pouvoir remettre de l'ordre et sécuriser définitivement ces espaces du sud qui sont occupés en grande partie par des groupes armés qui préfèrent s'appeler des Oisalend.
Au Nord Kivu, le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda poursuivent leurs affrontements pour le 11e jour consécutif dans le sud du territoire de Lubero. Ce matin encore, de violents combats ont éclaté dans le village de Kasséé, situé à 60 km de Lubero centre. Depuis Beni, Martial Papi Mukeba nous rapporte le dernier développement.
Tôt ce matin, les rebelles du M23 qui partagent avec les FARDC les contrôles de la localité de Kasséhé ont attaqué les positions de l'armée. Après quelques heures d'intenses affrontements, les lignes de défense des deux camps n'ont pas bougé et à la mi-journée, les combats avaient cessé. D'un côté, les FARDC cherchent à déloger les M23 de Kasséhé tandis que les rebelles s'efforcent de maintenir leur position. Le contrôle de Kasséhé revêt une importance stratégique, offrant une vie et des voies d'accès vers la commune rurale de Kirumba, toujours sous occupation rebelle. Hier après-midi, lors des nouveaux affrontements, la localité de Luofu a été brièvement occupée par les M23 avant que les FARDC ne reprennent l'avantage grâce à une contre-offensive. Ce matin, Luofu reste sous contrôle de l'armée. Aucune reprise de combat n'a été signalée sur ses fronts, mais le calme apparent cache une situation extrêmement tendue. Des sources sécuritaires rapportent que les risques d'une reprise des hostilités à Luofu et dans les villages environnants restent très élevés. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. S'enquérir de la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, tel est le principal objectif de la première visite à Goma de la toute nouvelle envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs, Madame Tiffany Sadley. S'est ainsi exprimée mercredi 11 décembre à Goma à la fin de sa tournée en RDC. C'est après ses rencontres avec le gouverneur ad intérim de la province et une visite dans le camp de déplacés de Don Bosco. Elle affirme que son pays est engagé à s'impliquer dans la recherche de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Madame Tiffany Sadley au micro de Rosalie Zawadi.
J'ai été nommée en juillet et ma visite ici vise à comprendre la situation dans l'est de la RDC. J'ai parlé à de nombreuses personnes comme le gouverneur, mais aussi dans les camps à des personnes déplacées pour m'aider à comprendre la situation. J'ai donc essayé d'obtenir un éventail de points de vue pour m'aider à comprendre parce que le Royaume-Uni se préoccupe vraiment de cette région et nous voulons la soutenir. Nous voulons soutenir la paix ici et nous ne pouvons le faire que si nous comprenons vraiment ce qui se passe. Je pense donc avoir eu l'impression d'une région pleine d'enthousiasme et d'ambition, mais aussi une région qui souffre de terribles conflits. Nous sommes donc très favorables à la paix et dans ce contexte, nous soutenons le processus de Luanda et nous voulons qu'il apporte des solutions concrètes sur le terrain. Et nous espérons qu'il continuera à apporter les résultats. Mais le plus important est que toutes les parties prenantes respectent les engagements qu'elles ont pris dans le cadre du processus de Luanda.
Attaque lundi des miliciens Mobondo près du village Aviation à Kwamout. 12 corps calcinés viennent d'être inhumés ce mercredi. Ils ont été trouvés en état de décomposition par l'armée déployée pour imposer l'autorité de l'État. Il n'y a eu ni cercueil ni autre condition humaine pour un enterrement digne. Le député national élu de Kwamout qui livre l'information plaide pour une assistance en faveur de survivants de l'incendie. Guy Moussomo parle d'un manque de médicaments et des moyens financiers pour leur prise en charge. Il a été joint au téléphone par Irène Mboma Luzolo.
Les militaires sont descendus sur place au village Mbole. Ils ont trouvé 12 corps en décomposition. Alors les militaires n'ont pas voulu ramener les corps au village. Ils ont préféré les enterrer sur place. Alors, dans ça, il y a eu des femmes, des hommes et des enfants. Il n'y avait pas de cercueil. On les a inhumés à main nue, comme on le fait d'habitude dans des cas pareils. Ils n'étaient pas inhumés dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas de cercueil. Parce que quand les militaires sont arrivés, les corps gisaient déjà sur le sol. C'est pourquoi les militaires, n'ayant pas trop de moyens, ils ont préféré les enterrer à la va-vite. Oui. Ces gens qui ont été brûlés, ils sont à l'hôpital général de Kwamutu, mais en manque de soins, parce qu'il n'y a pas de médicaments, et puis il n'y a pas de moyens financiers pour qu'ils soient très bien soignés, comme on peut soigner des personnes humaines. Alors ils sont là en train de galérer. C'est pourquoi nous, on est en train de demander à la ministre des Actions humanitaires et Affaires sociales de venir en aide à ces gens, et c'est vraiment urgent.
Le matériel que la MONUSCO a légué au gouvernement avant son désengagement dans la province du Sud Kivu constitue un outil important dans l'exécution des travaux de la route sur l'axe Bukavu-Kalehe-Nyamukubi. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi l'a dit hier dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi lors de sa visite au quartier général du bureau résiduel de la MONUSCO à Bukavu. Suivez-le dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Comme vous le savez, nous avons obtenu du matériel qui appartenait jadis au contingent chinois intégré au sein de la MONUSCO. C'est des matériaux d'environ 7 500 000 dollars américains. Et là, à l'heure où je vous parle, ce matériel, c'est-à-dire les compacteurs, les tracteurs, les engins lourds comme les niveleuses, les chargeurs, ainsi de suite. Nous sommes en train d'utiliser ces équipements sur l'axe routier Bukavu, Kalehe, Nyamukubi, plus précisément Nyabibwe, un axe qui était complètement abîmé chez les Français. Ce sont ces engins de la MONUSCO, avec le génie militaire du Sud Kivu, grâce au financement de la province du Sud Kivu. Ce matériel est en train d'être utilisé pour ouvrir les accès routiers. Nous l'avions déjà utilisé une partie pour l'assainissement de la ville, pour collecter les déchets, et nous allons continuer. Et nous sommes très contents que des anciens experts de la MONUSCO qui utilisaient ces engins se sont joints à la province pour donner bénévolement leur temps et leur énergie pour l'usage adéquat de cet équipement.
Actualité internationale. Au sud du Soudan, le président Salva Kiir a limogé plusieurs officiels de haut rang lundi 9 décembre. Les raisons de ces changements ne sont pas encore connues, mais ils font suite au limogeage d'autres figures du pouvoir sud-soudanais début octobre, et tout particulièrement celui du chef de renseignement en poste depuis l'indépendance en 2011. Certains médias évoquent une purge en cours dans l'appareil d'État au sud du Soudan.
L'invité.
Amnesty International a publié hier mercredi son rapport sur le massacre perpétré par l'armée congolaise contre un groupe des adeptes du mouvement politico-religieux appelé Wazalendo le 30 août 2023 à Goma dans le Nord Kivu. Ce jour-là, des manifestants avaient prévu d'aller demander le départ de la MONUSCO et l'armée avait réprimé cette manifestation. À travers ce rapport, cette ONG internationale formule quelques recommandations au président de la République, notamment de suspendre tous les officiers impliqués dans ces massacres et aux Nations Unies d'ouvrir une enquête sur le rôle joué par la MONUSCO dans les événements ayant conduit au massacre. Pour en parler, Radio Okapi reçoit Jean Maubert Singa, chercheur RDC à Amnesty International. Il répond aux questions de Jeff Ngoy.
Jean Maubert, bonjour.
Bonjour Jeff Ngoy.
En quoi consiste le rapport que vous avez publié sur le massacre dans le Nord Kivu, plus d'une année après?
Ce que le rapport d'Amnesty International révèle, c'est que le massacre n'était pas le résultat du hasard ou d'une bavure de la part de l'armée congolaise ou même d'une réponse à d'une sorte de d'autodéfense comme les autorités l'avaient laissé entendre. Il s'agit plutôt de la suite logique d'une série d'actes délibérés commis par les autorités militaires congolaises qui sont en charge de la province en vertu de l'état de siège, mais aussi par la garde républicaine, y compris les unités d'élite au sein de cette armée, de cette garde républicaine qui s'appelle Force spéciale.
Comment Amnesty a procédé pour collecter toutes les allégations contenues dans ce rapport?
Tout d'abord, dès le mois de septembre 2023, une équipe de chercheurs chercheur d'Amnesty International s'est rendu sur place à Goma, a visité les lieux du massacre, c'est-à-dire la radio de Wazalendo dans le quartier Keshero et ce qu'ils appellent temple, leur lieu de culte dans le quartier Nyabushongo. Au premier endroit à la radio, c'est là que tout avait commencé à 3h du matin. Et puis à la radio, plus tard dans la matinée, c'est là que d'autres dizaines de personnes avaient été tuées par la garde républicaine. Donc Amnesty International a donc interviewé plus de 70 victimes et témoins ou survivants, victimes, témoins de ce massacre, y compris également des journalistes, des officiers de l'armée congolaise, y compris certains de ces officiers qui ont été mis en cause, et puis d'autres personnes ressources. Amnesty International a également analysé plus de 80 photos et vidéos de ces événements-là qui avaient été filmés, heureusement, par des habitants.
Pourquoi chargez-vous la MONUSCO à travers ce rapport ?
Amnesty International indexe la MONUSCO, effectivement, pour le rôle qu'elle a joué, non pas dans le massacre lui-même, mais dans les événements qui ont concouru à ce massacre. Comment ? Et les documents trouvés par Amnesty International montrent que, dès le 21 août, la chef de bureau de la MONUSCO à l'époque, à Goma, avait écrit au gouverneur de l'époque, Constant Dima, lui demandant d'interdire purement et simplement la manifestation, jugeant qu'elle serait violente, qu'il y avait un risque d'attaque contre les installations et les personnels de la MONUSCO et surtout qu'il y aurait un risque de débordement que les autorités ne pouvaient pas contenir alors qu'elles faisaient face au M23 et à l'armée rwandaise. Nous n'avons pas trouvé de preuves, même en discutant avec les responsables des Nations Unies et en analysant les détails des déclarations, des écrits et des actes passés de ce groupe politico-religieux, la moindre preuve qu'elle préparait une manifestation violente contre la MONUSCO. Donc nous considérons que la demande de la MONUSCO envers les autorités congolaises d'interdire la manifestation, surtout en connaissant la manière dont malheureusement les forces de défense et de sécurité congolaises se comportent souvent vis-à-vis de la population civile, nous considérons que cette demande est allée beaucoup trop loin, au-delà de ce que la MONUSCO pourrait se permettre et en violation du droit à la liberté de manifestation et d'association que les Nations Unies sont censées promouvoir et défendre.
Est-ce que vous exigez également des enquêtes sur des atrocités perpétrées par les rebelles du M23 et le Rwanda sur des civils dans le Nord Kivu?
Ceci n'est pas le premier rapport qu'Amnesty International publie sur des violations et abus de droits humains commis en RDC. Par exemple, il y a quelques temps, Amnesty International a été l'une des premières organisations à enquêter sur le massacre et les viols de masse commis par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans les localités de Kishishe et de Bambou au Nord Kivu. Amnesty International a dénoncé ces faits et continue à les dénoncer. Amnesty a dénoncé à plusieurs reprises les violations commises par d'autres groupes armés, y compris les ADF Nalu et d'autres groupes qui commettent régulièrement des violations des droits humains.
Est-ce que vous êtes aussi au courant des crimes qui se commettent au Liban et en Syrie?
Bien sûr. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver énormément de rapports, de publications sur les massacres qui sont commis dans ces pays-là et dans bien d'autres. Il y a une semaine seulement, nous avons publié un rapport qui établit pour la première fois par une organisation internationale comme Amnesty International que l'armée israélienne a commis et est en train de commettre un crime de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce rapport est disponible sur Internet et c'est juste un exemple.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Jean Maubert Senga, chercheur RDC à Amnesty International, répondait aux questions de Jeff Ngoy. Ainsi prend fin ce journal sur Radio Capi. Je vous retrouve prochainement sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.